Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. À la une ce soir, les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Les Occidentaux mettent en garde Moscou contre toute intervention. Les autorités russes s'en prennent à l'OTAN. La Birmanie et l'inquiétude de la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Michelle Bachelet dit aujourd'hui craindre que la situation en Birmanie ne se dirige vers un conflit généralisé. Et elle fait le parallèle avec la Syrie en 2011. Au moins 710 personnes ont été tuées depuis le coup d'État mené par des militaires le 1er février. Dans cette édition également, l'Inde qui approuve le vaccin russe Sputnik V pour tenter de faire face à une hausse inédite des contaminations au Covid-19 en Inde. Et puis du football, le Paris Saint-Germain opposé au Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des Champions.
Le journal en français facile.
Le ton monte au sujet des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Pour rappel, la Russie est accusée de masser des troupes et du matériel à la frontière ukrainienne, ce qui inquiète la communauté internationale, car la guerre entre les deux pays, entre la Russie et l'Ukraine, a déjà fait plus de 13 000 morts depuis 2007. Aujourd'hui donc, les échanges se sont multipliés. D'abord, la Russie s'en est pris à l'OTAN, qui dénonce régulièrement l'attitude de Moscou. Et l'Alliance l'a répété aujourd'hui à l'occasion d'une visite du ministre ukrainien de la Défense, correspondance à Bruxelles de Pierre Benazé.
Le ministre ukrainien de la Défense est venu rencontrer son homologue américain ainsi que le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, tous deux en tournée européenne. Il a aussi rencontré les représentants des pays de l'OTAN. Ils lui ont confirmé le soutien de l'Alliance Atlantique face à la Russie. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN.
Le renforcement militaire considérable de la Russie est injustifié, inexpliqué et très inquiétant. La Russie doit mettre fin à ce renforcement militaire en Ukraine et autour, cesser ses provocations et procéder à une désescalade immédiate. La Russie doit respecter ses engagements internationaux. Le soutien de l'OTAN à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine est inébranlable.
Les deux ministres américains participeront ce mercredi à une session spéciale de l'OTAN. L'Alliance Atlantique rappelle qu'elle a déjà renforcé ces dernières années sa présence militaire dans la région de la mer Noire et de la Baltique, ainsi que sur le territoire des pays alliés voisins de la Russie. La fermeté désormais adoptée par les États-Unis face au Kremlin amène aujourd'hui l'OTAN à engager de nouveau un bras de fer diplomatique avec la Russie. Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Également à propos de l'Ukraine, à noter aujourd'hui un échange téléphonique entre le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue américain, Joe Biden. Les tensions entre la Russie et les États-Unis se sont renforcées depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Le président américain a rappelé, je cite, « le soutien inébranlable des États-Unis à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine ». Il demande, Joe Biden, à Vladimir Poutine de faire baisser les tensions et il propose au président russe un sommet dans un pays tiers dans les prochains mois. Un pays tiers, c'est-à-dire ni les États-Unis ni la Russie. En Birmanie, la situation ne cesse d'inquiéter. Près d'un mois et demi après le coup d'État qui a chassé du pouvoir l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi, la répression se poursuit. Au moins 710 personnes ont été tuées lors des manifestations contre la junte militaire. Les signaux d'alerte de la communauté internationale sont de plus alarmants. La preuve aujourd'hui, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a fait le parallèle avec la situation de la Syrie en 2011. Elle dit aujourd'hui craindre que la situation en Birmanie ne se dirige vers un conflit généralisé. Pour étayer ses propos, pour les détailler, je vous propose d'écouter la porte-parole de Michelle Bachelet, Ravina Shamdasani.
En dehors du nombre de personnes tuées qui ne cesse de s'accroître, nous assistons également à un effondrement de l'économie, de l'éducation, du système de santé. Des millions de personnes n'ont plus de moyens de subsistance, d'accès aux services élémentaires, ni de sécurité alimentaire. Même les accès Internet ont été coupés, empêchant la population de communiquer et de s'informer. Les mesures mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 sont également à l'arrêt. Nous sommes par conséquent très inquiets de la situation humanitaire dans le pays. Les communiqués et les condamnations ne suffisent pas, tout comme les sanctions ciblées. Ce qu'il faut, c'est couper les sources d'approvisionnement en armes et les sources de financement aux responsables militaires. Nous appelons aussi tous les États qui ont une influence auprès des responsables militaires d'user de leur pouvoir pour exercer un maximum de pression diplomatique, économique, pour mettre un terme au massacre de la population.
Voilà, Ravina Shamdazani, porte-parole de la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, propos recueillis par Yelena Tomic. Illustration du régime de terreur de la junte. Les militaires ont annoncé aujourd'hui avoir ajouté plusieurs dizaines de noms à une liste de personnes recherchées. Parmi elles se trouvent des personnalités, des médecins.
Le journal en français facile.
La pandémie de coronavirus. Les vaccins continuent de faire polémique. Après celui du groupe AstraZeneca, c'est le vaccin Johnson & Johnson qui inquiète. Après des symptômes de thrombose sanguine chez certains patients aux États-Unis, les thromboses sanguines, ce sont des caillots sanguins. Les États-Unis donc préconisent, suggèrent une pause dans l'utilisation de ce vaccin, ce qu'a décidé aujourd'hui l'Europe. Et puis ce soir, on apprend qu'à son tour, l'Afrique du Sud suspend la vaccination au Johnson & Johnson. Également concernant les vaccins, l'Inde, ce matin, a approuvé le Sputnik V. Le Sputnik V, c'est le vaccin russe. L'Inde fait face à sa pire vague de contamination depuis le début de la pandémie, avec plus de 165 000 cas enregistrés en 24 heures. Et surtout, le virus se répand bien plus rapidement, comme le montre ce reportage de notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farsi.
Depuis plusieurs jours, le médecin généraliste Swadipta Chandra croule sous les rendez-vous dans sa clinique Helvetia du sud de New Delhi.
En temps normal, je vois un maximum de 20 patients, mais hier, j'ai dû en voir environ 60, dont 40 étaient positifs au Covid. Mon dernier rendez-vous était à 2h30 du matin, je suis épuisé. Le virus se propage comme un feu de forêt. Cette deuxième vague est bien plus vicieuse. Par exemple, si une personne est infectée, toute sa famille aura des symptômes, c'est obligé.
It is impossible that any one member is negative. Everybody has symptoms.
Le plus inquiétant, dit-il, est que le test RT-PCR ne détecte même plus tous les cas.
Le virus s'adapte intelligemment et cette mutation indienne semble échapper aux détections. Beaucoup, beaucoup de nos patients sont négatifs au test, mais ont des symptômes graves. Les maux de tête sont maintenant les plus courants. Tous mes patients en souffrent. Cela touche aussi le cerveau, car beaucoup souffrent de confusion.
Le gouvernement de New Delhi vient de convertir 14 hôpitaux en centres Covid et se prépare au pire. La capitale a enregistré plus de 11 000 cas en 24 heures, soit un tiers de plus qu'au pic de la dernière vague, et cela augmente très rapidement. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Elle sera en charge d'un vaste chantier aux États-Unis, la lutte contre les stupéfiants. C'est un véritable fléau aux États-Unis. Anne Milgram a été nommée à la tête de la DEA, l'agence de lutte contre les stupéfiants, nomination qui doit encore être validée par le Sénat. Voyons avec Sofia Katsenkova les chantiers qui devraient attendre Anne Milgram, ancienne procureure générale de l'État du New Jersey.
La première bataille d'Anne Milgram sera la lutte contre l'épidémie d'opioïdes, une véritable plaie aux États-Unis qui s'est aggravée pendant la pandémie. Lors de sa campagne présidentielle, Joe Biden avait promis que la DEA identifierait les responsables de cette crise et protégerait la population victime de ces drogues. Il avait aussi critiqué les entreprises pharmaceutiques pour avoir inondé le pays de ces antidouleurs addictifs. Parmi ceux-ci, le fentanyl, au cœur d'un trafic international qui a contribué à augmenter les surdoses et les décès dans le pays. Anne Milgram devra donc agir aussi contre les réseaux internationaux, d'autant que les malades qui n'arrivent plus à se procurer légalement des opioïdes se tournent vers le marché noir. Si elle reste fidèle à la politique qu'elle a menée par le passé, elle s'attaquera aux commanditaires des trafics plutôt que d'arrêter les petits vendeurs ou les consommateurs. Anne Milgram est aussi une ardente défenseure de l'évolution du système pénal. Elle est notamment connue pour avoir réformé la police de Camden dans le New Jersey, souvent citée en exemple.
Enfin, en football, actuellement, les deux premières affiches des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est sur la pelouse. Au Parc des Princes, les Parisiens reçoivent le Bayern Munich avec l'avantage d'une victoire au match aller 3-2. La seconde rencontre du jour met aux prises Chelsea au FC Porto. Chelsea, à l'aller, s'était imposé 2-0. Voilà, c'est la fin de ce journal en France est facile. Il est 22h10 ici à Paris.